Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Je m'appelle François Allais et depuis 2017, je vais à la rencontre des entrepreneurs qui m'inspirent. PME, start-up, grandes entreprises, la mission de Serial Entrepreneur est de mettre en avant toute la diversité de l'entrepreneuriat francophone. Bienvenue dans ce 65e épisode, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je reçois Anne-Sophie Léniel, la cofondatrice de la start-up HypeDat, un outil de comptabilité et de gestion financière pour les start-up et les PME. Avec un véritable profil d'entrepreneur, Anne-Sophie fait ses gammes dans la finance au sein de grandes entreprises comme la Société Générale ou encore la compagnie d'investissement et de gestion privée. Sa particularité, et c'est l'un des sujets de l'épisode, c'est qu'elle ne faisait pas partie d'HypeDat dès la création du projet. Elle les a d'abord rejoints en tant que Chief Marketing Officer en 2019, puis est devenu Chief Operating Officer quelques mois après pour devenir, de par ses résultats, associé en 2021. Aujourd'hui, HypeDat totalise plus de 20 000 utilisateurs sur la plateforme, plus de 65 000 utilisateurs via API, un revenu récurrent mensuel signé de 300 000 euros et une équipe de 45 collaborateurs. Dans cet épisode, vous allez notamment découvrir son histoire et ses expériences avant de rejoindre HypeDat, quelles ont été ses premières missions et comment est-elle devenue associée d'un projet qu'elle n'a pas créé, les grandes étapes d'HypeDat et l'évolution du produit, quel a été l'impact de la pandémie sur leur business, l'avenir de la start-up avec l'objectif de doubler son effectif dans les prochains mois. C'est le dernier épisode de cette 7e saison. Le podcast reviendra dès la semaine prochaine pour une mini-série de 4 épisodes en collaboration avec un bel événement. Je n'en dis pas plus, vous aurez toutes les informations dans les prochains jours. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, à partager l'épisode à votre réseau et à me rejoindre sur TikTok, @serialentrepreneur, où vous êtes déjà plus de 5000 à suivre le podcast. C'est un chiffre qui augmente tous les jours, toutes les semaines, et ça fait vraiment plaisir. Vous pouvez également me faire votre feedback par mail ou directement en message privé sur LinkedIn et Instagram. Moi, je vous souhaite une excellente écoute, prenez soin de vous et à très vite. Qu'est-ce que tu as fait avant de rentrer dans l'écosystème entrepreneurial ?
J'ai fait plein de choses parce que je suis pas toute jeune en fait. Moi j'ai déjà 42 ans, donc j'ai eu le loisir d'entreprendre à plusieurs reprises déjà. J'ai un parcours assez classique, j'ai fait des études de droit, j'ai été en finance pendant quelques années, gestion privée, etc. Et puis après mon deuxième enfant, j'ai eu envie d'entreprendre. D'abord pour faire plus coïncider mon rythme de travail avec ma vie personnelle. Donc j'avais envie de pouvoir être plus présente et de gérer comme je le voulais mon temps. Donc j'ai eu un restaurant, j'ai monté un site e-commerce, j'ai fait différentes choses. J'ai eu l'opportunité aussi de faire un exit. Donc ça c'est quelque chose qui change aussi un peu la donne. Et puis après j'ai rejoint un projet en tant que directeur général. C'était une boîte assez familial et traditionnel, et j'y ai apporté du digital. Donc c'était dans un domaine complètement différent puisque c'était la distribution de matériel médical et notamment de la cryothérapie. Et donc j'ai fait un mandat de 3 ans, et puis après cela je recherchais une nouvelle aventure et j'ai rejoint l'équipe d'HypeDat qui était déjà constituée, et je les ai rejoints en qualité de CMO vraiment au tout début. J'étais l'employé numéro 5. Et j'ai eu la chance, il y a un an et demi, de pouvoir remonter en qualité de cofondateur. D'abord parce qu'il y a un des cofondateurs qui est sorti, et aussi parce qu'on avait l'envie de poursuivre vraiment sur le long terme avec mes deux associés. On est ultra complémentaires. Et moi, c'est un sujet sur lequel j'ai vraiment... qui me tient vraiment à cœur, parce que d'abord j'ai une double casquette marketing et également déjà entrepreneur, et aussi parce que j'ai effectivement eu un démarrage de carrière plutôt en finance. Donc ça coïncidait vraiment avec des choses que je maîtrise et des choses que j'avais envie de faire.
Ouais, on va revenir un peu sur ton parcours. Donc effectivement, tu fais tes premières armes dans le salariat sur le sujet des finances, notamment au sein de la Société Générale, puis ensuite pour une entreprise qui gère des grandes fortunes. Qu'est-ce que tu retiens un peu de toutes ces expériences, qu'est-ce qu'elles t'ont apporté justement pour le parcours que tu as eu?
Ce que j'ai appris le plus dans ces gros groupes, c'est une manière de se comporter et une manière de gérer les projets tels qu'ils soient. C'est très formateur, je pense. Le meilleur conseil qu'on puisse donner à tous les jeunes qui démarrent, c'est de vraiment diversifier un maximum les expériences. C'est hyper important de passer par un grand groupe. Je vois vraiment la différence, moi, dans les profils que je peux recruter. Il y a une réelle différence dans l'approche et dans la manière, par exemple, de mener un meeting, de reporter, dans la manière de structurer les comptes rendus, etc., ou les réponses aux clients. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de maîtrise et beaucoup plus... on répond à des standards qui sont beaucoup plus élevés quand on est passé dans un grand groupe. Et ça, c'est important, je pense, pour la suite de la carrière. Et effectivement, il n'est pas nécessaire de s'éterniser. on peut avoir envie d'aller voir ailleurs. Et là, je trouve que la start-up, ben, c'est idéal parce qu'on a très, très vite des responsabilités. On sait que chaque décision peut avoir un impact et on peut avoir un impact quelle que soit sa fonction dans l'entreprise. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Donc, c'est vraiment un conseil que je peux donner à tous les jeunes profils.
Ok, toi ta vision c'était vraiment de tester un maximum de choses et puis justement pour voir ce qui te plaisait le plus finalement dans ce que tu voulais faire dans tes différentes expériences.
C'est surtout que je me suis, c'est peut-être pas bien de dire ça, mais je me suis assez nourrie par exemple, je pense à cette expérience Société Générale, je me suis assez nourrie de cette expérience, c'est-à-dire qu'il y a une somme infinie de formations auxquelles on peut accéder, on apprend énormément de choses, et c'est vrai que dès lors que j'ai senti que j'avais moins de choses à apprendre ou bien que j'avais fait un peu le tour et que j'allais être bridée, parce que après, c'était plus une question d'âge pour accéder à certaines fonctions, bah, j'ai eu envie d'aller voir ailleurs, en fait. Parce que j'avais pas de perspective rapide, on va dire. Mais c'est vrai que c'est ultra formateur en démarrage de carrière.
Donc, I Paid That, on va commencer à en parler. Ça a été créé en 2017. Toi, la particularité, c'est que tu rejoins cette startup en mars 2019, si je dis pas de bêtises, en tant que CMO. C'est vrai que tu as un profil qui est... du coup, plus intrapreneur, puisque tu les as rejoints en tant qu'associé l'année dernière, même si, du coup, l'intrapreneuriat, c'est de l'entrepreneuriat au sein d'une entreprise. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire d'iPadZat et l'histoire aussi de tes premiers mois dans la startup?
Effectivement, moi, j'ai rejoint, en fait, iPadZat en mars 2019. C'est un jour dont je me souviendrai toujours parce qu'en fait, j'ai rejoint la startup le jour où on a reçu 1,5 million sur notre compte. C'était le jour où on a reçu le seed. On était donc tous très contents et j'ai été recrutée en fait à la demande du VC en fait, qui voulait un profil un peu plus mature, un peu plus expérimenté. D'une part parce que dans la team, ben, c'était composé de 5 personnes, donc c'était très restreint, mais personne n'avait réellement managé, réellement dirigé une boîte, et puis surtout, il fallait positionner un produit. Quand je suis arrivée à iPadZat, c'était un ticket moyen, enfin un panier moyen de 9 euros, il y avait un seul produit, on adressait des toutes petites entreprises, voire des freelances. Donc, c'était, il n'y avait pas encore réellement, on n'avait pas trouvé notre truc, quoi. Et donc, c'était hyper excitant parce qu'on avait des moyens limités, parce qu'un million et demi, finalement, c'est pas grand chose. Mais quand on n'a rien du tout, c'est beaucoup. Mais en fait, c'était limite une page blanche et beaucoup à faire. Et puis, le marché était très peu structuré en 2019. Là, tout s'est accéléré. Mais il y avait très peu d'acteurs quand on a démarré. C'était ultra excitant. On a pris tout de suite un axe assez clivant. Et donc, du coup, ça a été une super aventure. Je me suis retrouvée, 2019 là. 2020, on avait passé déjà un certain cap puisqu'on avait déjà un panier moyen qui avait augmenté. On était autour des 50 euros. On avait déjà 3 produits. Nous, notre particularité, c'est de développer nous-mêmes la techno, puisque mes deux associés sont des devs, ils sont ingénieurs, et donc on a cette particularité de pas faire de l'agrégation de services, mais de l'intégration, mais plutôt de développer notre tech. L'idée, c'était de construire une suite d'outils la plus complète et la plus facile d'utilisation pour les entrepreneurs, et leur permettre d'automatiser toute la fonction comptable et finance, tout ce qui est désagréable. On a tous les trois été auparavant entrepreneurs, on a tous touché du doigt la pénibilité de préparer sa comptabilité, c'est-à-dire de compiler, on va dire, tous les justificatifs au même endroit et de les transmettre à son comptable, pour au final, quand on fait ça de manière assez traditionnelle, avoir peu de visibilité sur sa finance. Nous, on s'est dit, ok, la compta, c'est une obligation légale, mais nous, on va transformer ce truc en une opportunité de pouvoir piloter sa boîte de manière éclairée. Et donc, on s'est dit, on va faire de l'entrepreneur un entrepreneur augmenté, on va lui donner de la visibilité sur son cash et ce qu'il peut faire avec sa trésorerie. On va lui donner aussi l'opportunité de parler d'égal à égal avec son banquier, de ne pas se sentir démuni parce qu'il est nul en Excel. Vraiment, de l'encadrer, de l'entourer, de lui apporter vraiment tout notre savoir-faire, tout ce qu'on peut automatiser, tout où on peut lui donner de la data aussi, pour qu'il fasse une meilleure prise de décision, pour qu'il pilote sa boîte le plus de manière sécuritaire, on va dire. Je me suis retrouvée là-dedans. Effectivement, j'ai eu des résultats qui étaient plutôt satisfaisants, puisque j'ai grignoté au fur et à mesure le market, le support, les sales. Comme j'étais la plus à même de manager, au final, je me suis retrouvée à manager quasiment tout le staff hors les techs, en dehors des techs. Et donc, je me suis retrouvée très vite dans un rôle de CEO. Et on va dire qu'au bout d'un an et demi, j'étais CEO. Et en fait, c'est lors de la dernière levée, quand on a commencé le roadshow, on a un des associés d'origine qui a émis la volonté de sortir, parce que lui, il avait envie de faire autre chose. Et effectivement, à ce moment-là, on m'a proposé de rejoindre l'équipe de fondateurs, mais pour finalement exercer exactement la même fonction que celle que j'exerçais depuis déjà un an et demi. Donc, on va dire que c'était plutôt une récompense.
C'est ça, c'est suite à ton investissement que l'opportunité s'est présentée.
C'est ça.
Et ça peut arriver dans pas mal de startups aussi,
exactement.
Ce genre d'événement.
Et ça peut être bizarre de finalement porter le projet de quelqu'un d'autre, parce que moi, j'ai déjà entrepris avant. Mais là, ça s'est fait ultra naturellement. Je pense que c'est le cas parce que d'abord, je suis arrivée très vite. Et surtout, on est sur des champs de compétences où on se marche pas du tout dessus avec mes associés. Donc du coup, ça s'est fait vraiment naturellement. D'abord, ça a été une vraie rencontre humaine. Ils sont devenus plus que mes associés. C'est ma famille, quoi. On est tout le temps, on est 24 heures sur 24 ensemble depuis quasiment 4 ans. Donc, je passe plus de temps avec eux qu'avec mes enfants, malheureusement. Mais du coup, c'est vrai que c'est une vraie aventure.
Ouais. Dès le départ, vous étiez très, très complémentaires, finalement. Donc, c'est pour ça que.
Et on l'a senti vraiment immédiatement. Je veux dire, le premier que j'ai rencontré, c'est Sébastien. On s'est rencontrés de manière complètement informelle parce qu'il n'y a rien de formel en start-up. On s'est rencontrés en terrasse de café et deux jours après, j'étais embauchée et ça s'est immédiatement bien passé. Et pourtant, on vient d'univers totalement différent. Mais on a tout de suite su ce qu'on pouvait s'apporter l'un à l'autre. On savait qu'on a très peu besoin de communiquer pour savoir où est la place de chacun. C'est assez chouette.
Et donc, tu arrives en 2019, donc j'imagine qu'il s'est passé beaucoup de choses en 3 ans, même si 2019, ça paraît comme si c'était hier. Est-ce que tu veux me parler un peu des grandes étapes d'iPadZat, un peu l'évolution du produit, et puis aussi forcément 2020, l'arrivée de la pandémie, et est-ce qu'elle a eu potentiellement un impact positif ou négatif sur votre business ?
Alors oui, des étapes, il y en a eu plein. D'abord, il fallait trouver la bonne suite d'outils. Je vais te dire qu'en fait, on est notre premier client. C'est-à-dire que nous, on est une TPE-PME, on est en train de devenir une PME, mais on était une TPE. Et en clair, nos besoins sont aussi ceux de nos clients. Donc au début, on avait des tout petits besoins, donc on avait un produit, on voulait juste aspirer on avait notre produit de collecte, aspirer vulgairement nos pièces comptables là où elles se trouvent, les récupérer automatiquement. Donc on a développé des algos qui vont dans les boîtes mail, on a des collecteurs pour aller chercher les factures dans les espaces fournisseurs. Et puis on a développé également une application note de frais pour capturer tous les justificatifs qui traînent dans tes poches. Donc, les restos, les stations-service, tout ce qui est papier, quoi. Et te permettre de les déchirer puisque ça a valeur probante. Donc, ça, c'est, on va dire, qu'on couvre tous les achats. Bah, en gros, ça, il y a déjà un ou deux produits qui le font. Donc, on s'est dit, OK, c'est chouette. Mais vulgairement, c'est un aspirateur à pièces comptables. Sauf que quand tu passes l'aspirateur à pièces comptables, si tu n'as pas la certitude d'avoir vraiment 100% de tes pièces, finalement, cet aspirateur, il ne sert à rien. Donc, on s'est dit, la seule manière d'avoir cette certitude, c'est d'ajouter la brique banque. La brique banque, c'est quoi? C'est faire matcher pour chaque transaction bancaire de toutes les banques de ta boîte, parce que tu peux en avoir une, mais tu peux aussi en avoir trois ou quatre. À chaque écriture doit correspondre une pièce comptable. Et là, seulement à ce moment-là, tu seras sûr et certain d'avoir toutes tes pièces comptables. Donc, on a ajouté cette brique banque et on s'est dit, et nos clients aussi nous l'ont dit, parce qu'on consulte aussi énormément nos clients, nous ont dit, bah, si on est capable de le faire pour les achats, on est capable également de le faire pour la vente. Donc, on a travaillé notre intégration avec tous les CRM et les logiciels, les facturiers. Et puis, on a développé également un facturier parce qu'on a découvert qu'il y avait des clients qui n'étaient pas du tout équipés. Donc voilà. Et on a fait exactement le même process pour la vente. C'est-à-dire qu'à chaque facture émise doit correspondre un règlement. Et là, on est capable d'alerter en temps réel l'entrepreneur sur les clients, par exemple, qui n'ont pas réglé leur facture. Donc ça, c'est très intéressant pour la TPE-PME parce qu'il y a toujours des problèmes de cash, par exemple. Donc ça, c'est un peu la suite logique de comment on a organisé la création du produit. Là, on avait trois briques, on va dire. Et puis, il y a eu la pandémie. La pandémie, on s'est rendu compte que, petit 1, nos clients qui étaient encore des toutes petites entreprises, finalement, étaient beaucoup, beaucoup plus sensibles à la crise et qu'il y en avait beaucoup qui mouraient parce qu'ils ne tenaient pas, ils n'avaient pas de trésor et ils ne savaient pas comment parler avec leur banquier, ils ne savaient pas faire une situation pour négocier un PGE, ils ne savaient pas, il y avait plein de trucs qui étaient compliqués. Alors, très, très vite, on a décidé de se réorienter en termes de cible et d'offrir un produit beaucoup plus complet qui adressait la PME, parce que quitte à aller faire de l'acquisition payante, l'idée c'était que ce soit sur du long terme et que les clients soient moins fragiles et aient la capacité de tenir durant cette crise. Donc du coup, on a commencé à développer un produit qui correspondait davantage aux plus grosses structures. Donc avec des systèmes de workflow, de la validation par plusieurs managers, des choses comme ça qui permettaient d'adresser des structures plus étoffées. Et puis, pour pallier à ce problème de visibilité qu'on vivait nous-mêmes, en fait, puisqu'on avait besoin de trésorerie, nous aussi, on s'est dit qu'en fait, avec ce flux de données qu'on avait, c'était quand même dommage de ne pas le restituer de manière pertinente pour nos clients. Donc, on a, durant le premier confinement, développé la version bêta d'une brique qui s'appelle Trezo. Et donc, c'est un outil qui permet de faire de la gestion de trésorerie. Donc, de simuler des hypothèses de perte, de crise, d'investissement, tout un tas de choses qui te permettent au quotidien de mieux gérer ta trésor et de savoir en temps réel où tu en es. Et ça, c'est l'impact positif de la Covid sur notre entreprise. Le deuxième impact positif, c'est même le troisième puisqu'on a adressé une nouvelle cible. Le troisième impact positif, c'est qu'en fait, tout le monde a appris à travailler de manière digitale. Et nous, on est un outil qui permet à l'entrepreneur et à l'expert comptable de travailler de manière digitale, asynchrone et donc à distance. Et ça, je dois dire que ça a été un vrai coup de pouce pour nous, parce que la profession comptable était, on va dire, plus conservatrice dans son ensemble. Et c'est vrai que ben là, on a eu un vrai essor, parce que on permet, comme on ossérise les pièces, on permet de générer toutes les pièces comptables qu'on collecte, en fait, on fait ressortir tous les éléments qui sont intéressants, c'est-à-dire numéro de facture, montant, date, objet, enfin, tous les éléments qui vont devenir, en fait, une écriture comptable. Et nous, on transmet à l'expert comptable des écritures pré-saisies et des pièces bien classées. Et donc, lui ne vient qu'en révision. il peut se consacrer à son vrai métier, qui sont le conseil auprès de son client. Donc effectivement, on fait gagner du temps à tout le monde, que ce soit entrepreneur ou expert comptable. Et c'est vrai que la pandémie nous a permis en fait d'accélérer notre développement, parce que là où on avait quelques clients chez les experts comptables, ben, ils ont voulu déployer plus massivement de manière à rationaliser leur travail au quotidien.
Donc ça a été un véritable générateur de business, en tout cas sur la partie B2B, puisque du coup votre offre, est-ce qu'elle est uniquement B2B ou est-ce que vous adressez du coup à des cabinets d'expertise comptable mais aussi à des entrepreneurs directement?
On va dire que nous, il y a deux canaux chez nous, c'est indirect et direct. Naturellement, quand on a développé IPDate, c'était vraiment un outil fait par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'en maison, même à ce jour, on a zéro expert comptable, zéro comptable en interne. On a un comité produit où effectivement siège des experts comptables partenaires. Il n'y en a pas chez nous. Et ça, c'est vraiment un truc qui est inédit dans l'édition de logiciels comptables sans comptable. On fait de la pré-comptabilité. On est en amont de la comptabilité. C'est vraiment hyper important de comprendre ça. Et on n'a pas vocation ni à remplacer les comptables, ni à faire de la production comptable. Nous, c'est vraiment un outil pour les entrepreneurs. Et d'ailleurs, notre acquisition à ce jour est exclusivement orientée vers les entrepreneurs. C'est-à-dire que ce soit mon SEO, que ce soit mon payant, je fais tout vers l'entrepreneur. Mon message, il est pour les entrepreneurs. Effectivement, les experts comptables, au fil du temps, sont devenus des partenaires et m'apportent du business. Pourquoi ? Parce que quand j'ai un entrepreneur qui fait un sign-up chez moi, il a 14 jours de trial. Pendant cette période d'essai, en gros, il va connecter sa banque, il va connecter ses boîtes mail, il va connecter ses espaces fournisseurs, il va voir que IPDate, c'est magique et que tout va être rangé, réglé, nanana. Mais à l'issue de toutes ces opérations, évidemment, il va inviter son expert comptable sur la plateforme. L'expert comptable, lui, il a un accès qui est différent, qui est beaucoup plus technique, puisqu'il peut importer son plan comptable. C'est complètement indolore pour l'entrepreneur. Ça reste vulgaire du côté de l'entrepreneur, mais du côté de l'expert comptable, c'est beaucoup plus technique, parce que l'expert comptable, lui, il veut récupérer des écritures avec le bon code comptable, avec tout un tas de choses qui ne doivent même pas transparaître pour l'entrepreneur, parce que sinon, notre travail ne sert à rien, parce qu'en fait, ça reste aussi compliqué et il n'y a pas d'aspect différenciant. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne et qu'on arrive à engager les entrepreneurs sur la plateforme. Donc finalement, c'est ça notre job, c'est de faire coïncider ces deux univers qui normalement ne se comprennent pas vraiment. Donc voilà. Et en fait, les experts comptables, au fil du temps, étaient invités par les entrepreneurs et voyaient qu'en fait, l'entrepreneur devenait ultra discipliné et faisait bien sa préparation comptable et était bien engagé sur la structure. Donc finalement, au fil du temps, ils ont compris que
il y avait un intérêt.
Il y avait un intérêt pour eux parce que ça leur fait gagner du temps. Ils sortent de ce rôle où ils courent après l'entrepreneur parce qu'il fait pas, il transmet pas ses pièces, etc. Et donc du coup, ils ont décidé de déployer. Donc on a mis en place un système où, en gros, on leur vend des licences, ils déploient dans leur cabinet et deviennent effectivement apporteurs d'affaires pour nous. Au départ, c'était même pas prémédité, j'ai envie de dire. C'est pas du tout. On les adressait pas du tout. Et on n'a jamais eu vocation ni à les remplacer, ni à. Enfin, c'est vraiment pas notre truc, quoi. On voulait régler, en fait, un problème qu'on avait vécu en tant qu'entrepreneur. Et on adressait uniquement les entrepreneurs.
Simplifier la compta pour les entrepreneurs, finalement. C'était la mission de base. Puis effectivement, après, forcément, le produit évolue et intéresse potentiellement d'autres typologies d'audience. Donc, c'est intéressant. Est-ce que tu peux me parler un peu de la typologie de vos clients actuels? Est-ce que du coup, c'est des freelances, des TPE, des PME?
On est vraiment sur de la PME. On a quitté. Au début, on avait quelques freelances, mais c'est ce que je t'expliquer, durant le premier confinement, on a vu que faire de l'acquisition sur les freelances qui étaient beaucoup plus fragiles en période de crise, c'était pas forcément une bonne chose pour nous. Et en plus de cela, comme je te disais, j'ai mes deux associés, Jean-Pierre et Sébastien, sont tous les deux ingénieurs, développeurs, et très créatif. Et ils avaient plutôt envie de développer des outils un peu tout le temps. Et donc, du coup, d'ailleurs, on a un dernier là qui est sorti en septembre. Et donc, ils avaient... On s'est finalement, pas malgré nous, mais on s'est retrouvés à être plutôt positionnés en horizontal avec une suite d'outils. Et c'est plutôt un bon move parce qu'on voit bien que nous, on le fait depuis 3 ans, mais dernièrement, il y a pas mal d'acteurs qui sont en train de se positionner de cette façon-là parce qu'on veut une expérience client qui est ultra fluide et donc on va quasiment de la banque à l'expert comptable sans rupture. Et donc, c'est le chemin qu'on a pris dès le départ. D'ailleurs, on a eu même des stops. On avait des stops de certains investisseurs qui ne comprenaient pas pourquoi là où tous les acteurs étaient en vertical, nous, on voulait être en horizontal. Et finalement, c'est ce qu'on a fait et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fonctionne très bien.
Puis forcément, il y a de plus en plus d'acteurs parce qu'il y a aussi un sujet qui est le fait d'entreprendre et se démocratise de plus en plus.
Bien sûr.
Donc forcément, il y a de plus en plus de besoins.
Oui, et puis effectivement, il y a déjà un très gros acteur. Enfin, il y a toujours de la place pour plusieurs acteurs, mais on trouve que par exemple, sur l'indépendant, Georges fait très bien, maintenant c'est Indie, mais ils vont déjà très loin et ils étaient déjà assez avancés. Et nous, encore une fois, on avait vraiment cette volonté. On a ressenti en grossissant des besoins différents de la PME. Et surtout, moi, j'étais passée dans des structures plus traditionnelles, par exemple, puisque dans la structure que je dirigeais avant, il ne faut pas croire que tout est à Paris et que nous, nos clients, on a 75% de nos clients qui sont partout en France. Et nos clients, ce n'est pas que des startups parisiennes. C'est aussi des boîtes classiques en zone industrielle, à la campagne, dans des villes de moyenne taille. Enfin, on a de tout et de tout type d'activité. Donc, l'idée, c'était aussi de se dire, si je dois superposer 5 outils, déjà, comment je fais pour les sourcer ? Toutes les boîtes n'ont pas une DSI. Pour les faire communiquer entre eux, les installer, etc. C'est un casse-tête. Tout le monde ne sait pas faire. Tout le monde ne sait pas utiliser Zapier. Tout le monde ne sait pas. Enfin, c'est compliqué en fait. Il faut les sélectionner, les installer. Ensuite, il y a le coût. Superposer 5 abonnements, c'est pas la même chose que de passer par IP de date, où en réalité, on a optimisé les coûts parce que d'une, c'est un outil tout en un, et de l'autre. Comme on développe nous-mêmes le produit, on n'a pas de coût en fait. On n'achète pas des services. Donc, on est capable d'avoir une offre assez resserrée qui correspond parfaitement à notre cible. Et on s'est dit qu'il y avait un truc à faire.
Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur iPadDate et ensuite me donner un peu les objectifs futurs de la startup ?
Alors, nombre de clients, aujourd'hui, on est à 20 000 users. On a 20 000 users sur la plateforme et on a 65 000 via API. Donc, via API, c'est des gens qui utilisent notre API de collecte, par exemple, mais qui sont pas forcément des clients iPadDate. Donc ça c'est déjà assez chouette. Aujourd'hui on est sur un MRR signé de 300K je crois, de mémoire, enfin en tout cas au mois dernier. Et que te dire de plus, on est un peu plus de 45, on a vocation à être 70 d'ici la fin juin et probablement une centaine en septembre, donc ça grossit bien,
une bonne croissance.
On recrute essentiellement des devs et des sales, donc ça se passe très très bien. C'est assez chouette. Et donc on a eu un seed en 2019 et on a comment dirais-je closé une série A en septembre 2021 de 8 millions auprès de Truffle Capital, Adeli et BPI Venture. Nous allons repartir en série B dans les semaines à venir, je pense. Effectivement, l'objet de la série A, c'était essentiellement d'accélérer en France. On a fait une série A assez tardive, d'une part parce que effectivement, on a eu un peu ce mouvement où il fallait sortir un fondateur, remonter, mais surtout aussi parce que on avait cette volonté d'aller toucher le point mort. On voulait pas être dans une économie un peu trop irréelle. on est quand même un produit financier, un produit de gestion. On voulait se prouver qu'on était capable d'être dans une économie réelle. Bon, ça, c'est un premier point. Il y a aussi autre chose, c'est que on voulait également être sur un comme on développe nous-mêmes notre produit, on voulait être sur un produit qui soit bien ficelé, où on soit certain de la solidité avant d'accélérer. Aujourd'hui, on gère 20 000 users, 65 000 en API, avec 3 personnes au support, avec un délai de réponse de 8 minutes. On peut dire qu'on a un produit qui fonctionne. Les seuls bugs que nous ayons, je ne vais pas dire que les seuls bugs, on va dire que la moitié des tickets que nous ayons, c'est sur la réconciliation bancaire,
ouais, okay.
Qui n'est pas de notre fait parce qu'on passe, là, on passe office, on passe obligatoirement par un tiers. On utilise des services de banking et Budget Insight. Et c'est vrai que de temps en temps, il y a des API bancaires qui ne fonctionnent pas. Donc, on a des tickets et il faut répondre aux clients à ce moment-là. Et autrement, c'est des trucs assez usuels de gens qui n'arrivent pas à utiliser tel ou tel truc. Et ça se règle assez rapidement, d'autant qu'on fait évoluer de manière assez régulière l'ergonomie du produit pour que ce soit le plus simple à utiliser. Je suis un peu déviée. L'objet de la série A, c'était évidemment d'accélérer sur le marché français et d'aller ouvrir au moins 3 pays étrangers, européens, de manière à démontrer qu'on est capable d'internationaliser.
Ouais, de dupliquer le modèle sur d'autres pays. Très clair. On va passer à la partie bilan avec deux petites questions. Quel a été le moment le plus difficile de ton aventure, pour la première?
Trouver tout structuré au départ. Ça a été, on va dire, un an et demi de tunnel où j'ai quasiment pas vu ma famille et ça m'a d'ailleurs coûté mon mariage, je crois. Voilà, c'est la vie, je crois, c'est comme ça. Et j'en parle avec pas mal d'entrepreneurs, c'est pas évident de concilier tout. Je crois que trouver le modèle au départ, c'est compliqué. On fait des conneries, mais c'est aussi toute la richesse de la startup. C'est un truc que j'avais pas vécu forcément avant. C'est vraiment l'itération. On est capable de bâtir un truc en 24 heures et de le casser le lendemain. Et ça, c'est un truc que j'avais jamais vécu, cette énergie de et sans se retourner et sans finalement même avoir de regrets ou de choses comme ça et d'être capable de dire voilà on a fait de la merde et de recommencer, c'est pas grave. Parfois on cassait notre pricing, on mettait un truc et puis on se rendait compte que finalement ça allait pas du tout et on repartait. Je pense que trouver son modèle, c'est vraiment le truc le plus compliqué au départ. Quel produit, quelle cible, quel prix, quoi, c'est compliqué.
Ouais, je suis totalement aligné avec ce que tu as dit. Et ça montre aussi, du coup, que le fait d'intraprendre, c'est tout aussi difficile qu'entreprendre. Surtout que tu es arrivé, effectivement, à un moment où il y avait tout à structurer. Donc, finalement, tout était à faire.
C'est pour ça qu'ils m'ont donné des parts. C'était pour me
Et la deuxième question, c'est de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui?
De l'équipe qu'on est en train de faire grandir. Moi, là, avec le site, j'ai pas été capable d'embaucher beaucoup de seniors. J'ai surtout embauché des bébés, des juniors, des alternants, etc. Et aujourd'hui, on a fait ce pari de pas forcément embaucher beaucoup d'externes. On a surtout fait progresser, en fait, notre core team. On a trouvé très vite des profils qui étaient assez chouettes et qu'on a fait évoluer. Et puis, on a ajouté aussi, évidemment, du sang neuf et à des postes clés. Je pense notamment à notre PO qui vient de l'extérieur et qui est en fin de trentaine et qui est vraiment solide. Je pense à aussi plusieurs devs. Et puis, au market aussi, il y a des profils assez solides qui sont arrivés. Mais j'ai envie de dire, j'ai eu, je crois, au moment du CID, 8 alternants. Et ils sont tous. J'en ai 2 qui sont partis parce qu'ils avaient envie d'aller prendre l'air. Ils reviendront peut-être d'ailleurs, mais s'ils écoutent, ils reviendront peut-être. Mais autrement, ils ont tous grandi. Ils sont tous maintenant à des postes où ils ont eu une vraie accélération de carrière et ils sont récompensés. Et c'est chouette et de les voir grandir et de constituer cette team, cette famille au quotidien, c'est un truc vraiment ultra chouette.
Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'appréhension à faire x2 sur son équipe dans les prochains mois? Est-ce que c'est un vrai challenge de multiplier par 2 son équipe en quelques mois?
C'est le pire. C'est l'humain, c'est ce qu'il y a de plus
difficile.
Gratifiant, mais aussi ce qu'il y a de plus difficile. Et moi, c'est mon quotidien parce que c'est vraiment moi qui ai ça en charge. Donc, c'est le plus compliqué. On doit renoncer à certaines choses, c'est-à-dire que la relation qu'on a avec cette core team, les 15 premiers, on l'aura jamais vraiment avec les suivants. Donc, faut être un peu moins exigeant, un peu plus, même dans l'échange humain, on a vécu des trucs avec ceux avec lesquels on a accéléré au départ qu'on peut pas vivre. D'abord parce que c'est impossible d'avoir une relation de proximité avec 50 personnes. C'est beaucoup moins facile. Et je me dis, mais les 100 prochains, je les connaîtrai même. J'ai un de mes associés qui me fait rire parce que il est pas du tout dans le, on va dire, dans l'opérationnel. Il est c'est notre CEO. Et lui, il arrive le matin, il me dit, mais je le connais pas celui-là. Et ça lui fait tellement bizarre d'arriver dans sa boîte et de pas connaître le prénom ou même d'avoir, j'ai jamais vu le visage d'une personne, et il le découvre comme ça au fil de l'eau, ou bien parfois en général meeting une fois par mois, quoi. Donc c'est très bizarre, oui. Et puis il faut accepter aussi de se tromper, c'est-à-dire que parfois on fait des mauvaises pioches, on n'est pas ultra armé pour faire des recrutements, on n'est pas je pense que l'important c'est d'avoir suffisamment de recul sur soi et de se dire assez rapidement, pour faire perdre de temps à personne, en fait ça matche pas. Il faut être un peu honnête et de se dire
C'est intéressant parce que j'en parlais dans un des derniers épisodes avec Erwan Rosier, qui est le cofondateur de Fly the Nest, qui accompagne justement des startups à grandir et finalement à changer d'échelle, et qui ont notamment accompagné Content Square de passer de 50 à plus de 1300, enfin voilà, des gros changements d'échelle, et justement tout en ayant cette problématique de rester aligné sur les valeurs, en faisant évoluer la culture, etc. Et c'est vrai que c'est des sujets qui sont super intéressants, très difficiles, mais super intéressants.
je le vis au quotidien et je confirme, c'est très compliqué. C'est très intéressant, c'est, je pense, probablement ce qu'il y a de plus intéressant, d'ailleurs, mais c'est très compliqué. Et ça prend beaucoup d'énergie, je trouve.
Ouais. Eh ben on passe à l'avant-dernière partie de notre échange. Sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat, est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure ?
Oui, je pense qu'il y a 2 ans, j'ai rencontré lors d'un dîner fintech un homme qui aujourd'hui, je le considère comme mon mentor. Il m'aide à prendre du recul. C'est quelqu'un qui vient du monde de la banque. Il a même rejoint notre board en septembre. Il préside une association fintech, etc. Et il m'aide beaucoup à prendre du recul et à me poser des questions. Il m'embête d'ailleurs parfois, et même souvent, parce que nous, on est beaucoup dans l'action. Et en fait, moi, il m'oblige à faire des exercices de projection et à me dire, à ton avis, le marché, ça structurait comment à horizon 4 ans, 5 ans. Et ça nous évite quand même quelques bêtises. D'avoir la tête tout le temps dans le guidon, être dans l'action et pas vraiment regarder ce qui se passe autour. Il faut aussi prendre un peu de recul et être capable de temps en temps
de se poser un peu.
De se poser un peu.
Est-ce que tu peux me citer une personne qui t'inspire aujourd'hui ?
Les entrepreneurs, là, il y en a tellement. Enfin, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps Jonathan Dercol. J'ai rencontré, il y a pour le coup... assez longtemps, Thibaut Elzière, Defounders, qui m'impressionnait par sa capacité de travail ultra rapide et son mindset. Je pense qu'il y en a plein. Cyril Chiche de Lydia, qui est aussi hallucinant. Il y en a partout. Et en fintech, là, actuellement, c'est assez dingue. On vit un truc assez dingue. Donc,
c'est vrai que le paysage fintech français, c'est énormément développé ces dernières années, que ce soit en quantité mais aussi en qualité, donc c'est impressionnant.
Et puis il y a des sous-catégories, enfin je veux dire, il y a nous on est en compta tech, enfin il y a en assurtech, il y a des projets forts, enfin qui sont assez forts aussi. Il y a vraiment beaucoup je trouve qu'il y a vraiment plein d'inspirations partout. J'ai personne qui me vient précisément, enfin, je t'en ai cité 3, mais je pourrais t'en citer 20, tu vois. Il y en a tellement. Et tu peux prendre un peu partout, enfin, un peu d'essence de chacun, en fait. Je trouve que c'est très, très chouette et qu'il y a vraiment une super énergie. Moi, je suis hyper contente de vivre ça.
Très clair. Quel conseil donnes-tu aux personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ?
Il faut être résilient. Je crois qu'il faut être capable de tenir son cap tout en regardant quand même sans avoir d'œillères, en fait. C'est-à-dire qu'il faut être capable de se remettre en question. Parce que parfois, moi, je rencontre des entrepreneurs, ils sont certains qu'ils ont la meilleure idée du monde, mais en fait, ils sont juste déconnectés de la réalité, quoi. Donc, je pense qu'il faut être, faut savoir être obstiné, mais il faut quand même regarder, avoir une bonne connaissance de l'écosystème et voir ce qui se fait et surtout être à l'écoute des clients. Ça, c'est hyper important. Si on ne trouve pas son client, c'est que le produit, il n'est pas bon.
C'est clair. Et puis, pour revenir à l'idée, je pense qu'aujourd'hui, l'idée importe peu dans le milieu de l'entrepreneuriat. C'est plutôt l'exécution qui va faire la différence versus des projets qui ont les mêmes idées. Et ça, on sait que c'est important. Très intéressant pour conclure un peu cette partie. On passe à la dernière, du coup, un peu la partie finale avec des questions rapides. Le premier, c'est est-ce que tu as un livre à me conseiller ?
Karine Thuil, L'échange de nos vies. Je crois que c'est un de mes livres des dernières années, mais un de mes livres préférés.
Si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière, ce serait laquelle ?
Revolut.
Ah, sympa. L'avant-dernière question, c'est quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode ?
Moi, j'adore, je suis fan de toutes les boîtes qui sortent Defenders. Franchement, je trouve ça fou ce qu'ils ont fait.
Et puis la dernière, c'est quoi pour toi un entrepreneur ?
C'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions rapides, évidemment avec les éléments qu'il a à sa portée. Et aussi qui est capable d'admettre qu'il se trompe et de recommencer.
Parfait. Bah écoute, ce sont les mots de la fin. Je te remercie beaucoup, Anne-Sophie, pour cet échange.
Merci, François. Merci beaucoup. Au revoir.
Et puis à bientôt sur Serial Entrepreneur. Cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. T'abonner au compte Instagram, @serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même m'envoyer ton feedback à l'adresse françois@serial-entrepreneur.fr. Voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.